Vous écoutez RFI, il est 4h en temps universel, 5h à Paris et Berlin. Et le journal, c'est avec vous, Clotilde Dumay, bonjour.
Bonjour Fabien, bonjour à tous. 2 morts, dont un enfant et plus de 60 blessés en Allemagne après une attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg. Le suspect a été arrêté, ses motivations ne sont pas encore connues. Attaque qui survient en pleine campagne électorale, on y revient dans un instant. À combien de temps Justin Trudeau peut-il encore tenir? Le Premier ministre canadien a procédé à un remaniement de son gouvernement en pleine crise après le départ de la vice-première ministre, mais l'opposition demande toujours la démission de Justin Trudeau après 9 ans de pouvoir. Et puis au Tchad, Mahamat Idriss Déba devient maréchal après son père. La cérémonie est prévue aujourd'hui à une semaine des élections législatives. Un SUV noir fonçant sur la foule, zigzagant sur 400 mètres dans les allées d'un marché de Noël. Les faits se sont déroulés hier soir à Magdebourg, dans le nord-est de l'Allemagne. Cette attaque a fait 2 morts, plus de 60 blessés, dont une quinzaine grièvement, selon le dernier bilan provisoire. Le suspect d'origine saoudienne a été arrêté. Ses motivations ne sont pas encore connues. Il n'est pas encore possible de catégoriser ce qui s'est passé, indique la police locale. Cette attaque intervient en tout cas à 2 mois des législatives anticipées en Allemagne. Et cela pourrait avoir une incidence sur le vote en faveur de l'AFD, le parti d'extrême droite, comme l'analyse Paul Maurice du comité d'études des relations franco-allemandes de l'Institut français des relations internationales.
C'est un contexte préélectoral, élection dans laquelle l'extrême droite, l'AFD, est plutôt bien placée, en tout cas a actuellement dans les sondages des scores importants à 2 chiffres, entre 16 et 19% selon les sondages. Donc cet attentat s'inscrit dans un contexte où l'extrême droite, qui a surfé sur la vague migratoire de 2015, sur un phénomène qui a occupé l'Allemagne une dizaine d'années, et cette extrême droite est née, si j'ose dire, politiquement de l'opposition à l'accueil des réfugiés, notamment syriens, en Allemagne en 2015. Et cet attentat intervient un jour assez important pour l'extrême droite, puisque Elon Musk, le patron de SpaceX, de Twitter, a déclaré aujourd'hui que seule l'AFD, seule l'extrême droite, pouvait sauver l'Allemagne. Cette déclaration, associée à un attentat, qu'il soit terroriste ou non, risque de pousser encore plus l'extrême droite et en tout cas de renforcer l'idée pour ceux qui envisageaient de voter pour ce parti que ce parti est une solution pour l'Allemagne.
L'analyse de Paul Maurice de l'IFRI a écouté en longueur sur RFI après le journal de 8h, heure de Paris. L'AFD a d'ailleurs réagi après cette attaque, tout comme plusieurs pays étrangers. Les États-Unis se disent choqués et attristés. Même sentiment du côté de la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni et du premier ministre espagnol Pedro Sanchez. La France partage la douleur du peuple allemand, assure de son côté le président Emmanuel Macron. Le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu à Magdebourg dans la journée. La crise politique au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a procédé à un remaniement de son gouvernement, des changements pour un tiers des ministères. Façon de répondre à la démission surprise en début de semaine de la vice-première ministre Chrystia Freeland, en désaccord avec Justin Trudeau sur la stratégie à adopter face à la guerre économique qui se profile avec les États-Unis de Donald Trump. L'opposition réclame toujours le départ du Premier ministre canadien et certains Québécois interrogés par Pascal Guéricola pensent aussi que ses jours sont comptés.
L'honorable Indira Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce.
Pendant que les ministres de Justin Trudeau prêtent serment pour assumer leurs nouvelles fonctions, les citoyens, eux, s'interrogent sur la durée de vie de ce nouveau gouvernement.
C'est le bordel total. Tout le monde est dans l'expectative. Qu'est-ce qui va se passer avec Bambi, alias Trudeau?
Ça sent la fin d'un règne, d'un régime. M. Trudeau est là quand même depuis très longtemps. Peut-être qu'on pourrait passer à d'autres choses, là.
Le chef de l'opposition réclame la réouverture de la chambre où siègent les députés pour montrer la sortie à Justin Trudeau. Ce jeune homme voit pourtant le premier ministre assumer ses fonctions encore quelques mois.
Je pense qu'il va rester, ouais. Et là, il fait son remaniement ministériel, fait qu'il va vouloir rester encore, faire comme un deuxième second souffle, puis ça va échouer, je pense, après le premier débat.
Justement, cette trentenaire pense, elle, aux résultats d'élections anticipées si Justin Trudeau quitte son poste.
Ça m'inquiète pour la montée du conservatisme. Probablement le Parti conservateur qui va rentrer au pouvoir dans les prochains mois. C'est inquiétant.
Selon les sondages, les conservateurs disposeraient d'une imposante majorité si des élections ont lieu prochainement. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Mayotte ne vivra pas en situation normale pendant des mois, prévient Emmanuel Macron. Avant son départ, le président français a aussi indiqué que les écoles ne pourraient pas toutes rouvrir le 13 janvier, comme annoncé auparavant. À presque une semaine après le passage du cyclone Chido, l'eau, la nourriture et l'électricité tardent toujours à arriver sur l'archipel. Le dernier bilan fait état de 35 morts et environ 2500 blessés, mais il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes, selon le président français. Emmanuel Macron, qui a enchaîné avec un déplacement à Djibouti pour partager un repas de Noël avec les troupes françaises. La base militaire installée sur place va d'ailleurs se réinventer, selon Emmanuel Macron, comme point de projection pour des missions en Afrique après le retrait des forces françaises du Sahel et dernièrement du Tchad. Au Tchad, justement, la cérémonie de maréchalisation du président Mahamat Idriss Déby est prévue aujourd'hui, une semaine après l'annonce de l'attribution de cette distinction par le Conseil national de transition. Le second maréchal de l'histoire du pays réuni au palais présidentiel, l'ensemble des députés et des membres du CNT, ainsi que quelques invités triés sur le volet. Depuis N'Djamena, la correspondance de Victor Moria.
4 ans après son père, Mahamat Idriss Déby va recevoir officiellement la plus haute distinction de l'armée tchadienne à quelques jours des élections législatives, communales et provinciales qui marqueront la fin de 3 ans de transition. Selon Ali Kolotou Tchaimi, l'un des membres du CNT à l'initiative de la proposition, la dignité de maréchal récompense la stabilité apportée par le président à son pays.
Le courage, la responsabilité de notre président aujourd'hui ont donné que le Tchad est devenu un pays calme, stable, démocratique. Un pays qui a aujourd'hui une nouvelle constitution, un nouveau président élu, mais quelqu'un qui a donné tout à son pays. Ça, ce n'est pas un cadeau. Ce que nous donnons au président Mahamat, c'est un mérite.
Une dignité méritée, donc, selon ses partisans, un signe de basculement vers le totalitarisme pour ses opposants, cite Yombatina Beni, vice-président du Parti des Transformateurs.
Le président actuel est en train de s'inscrire, n'est-ce pas, dans une sorte de monarchisation du pays. On a redouté ça depuis avril 2021. Donc si on continue comme ça, j'ai bien peur, n'est-ce pas, qu'on s'installe complètement dans le totalitarisme.
Dans les rues de N'Djamena, la nouvelle n'est pas accueillie avec autant de méfiance. Mais beaucoup se demandent si le moment est bien choisi. La campagne législative peine à démarrer et la situation économique difficile reste au centre des préoccupations. Victor Moria, N'Djamena, RFI.
Et puis toujours au Tchad, 24 militants du PSF, le Parti Socialiste Sans Frontières, ont retrouvé leurs proches. Hier, jeudi, ils avaient été arrêtés fin février lors des événements qui ont conduit à la mort de leur leader, l'opposant Yahya Diallo. Washington abandonne son offre de récompense prévue pour l'arrestation d'Abu Mohamed Al-Julani, le chef du groupe islamiste radical Ayat Tahrir al-Sham, qui a conduit l'offensive des rebelles en Syrie. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre des diplomates américains et les responsables du HTS. Les nouvelles autorités de Damas assurent de leur côté dans un communiqué vouloir jouer un rôle dans la promotion de la paix régionale et construire des partenariats stratégiques privilégiés avec les pays de la région. 16 ans de réclusion criminelle pour les deux amis de l'assassin de Samuel Paty en France. Ils ont tous deux été reconnus coupables de complicité d'assassinat. La cour d'assises spéciale de Paris a d'ailleurs reconnu coupables les 8 personnes impliquées à différentes échelles dans l'assassinat de cet enseignant décapité en 2020 par un islamiste radical tchétchène. L'avocat de la compagne de Samuel Paty et de leur fils a salué un verdict équilibré. C'est une maladie d'une autre époque, pourtant en hausse ces dernières années chez les enfants en France. Le scorbut, maladie causée par une carence de vitamine C dans l'organisme. Une étude menée par des médecins des hôpitaux Robert Debré et de Cayenne et par des chercheurs de l'INSERM et de l'université Paris-Cité montre une augmentation de plus de 34% en 2023 du nombre de cas de scorbut à Rambeng, notamment depuis le Covid-19.
L'étude montre une augmentation notamment chez les enfants en situation de précarité. Professeur Ulrich Menzer, pédiatre à l'hôpital Robert Debré de Paris, en est le coordinateur.
On a comparé les différents groupes de maladies qu'on avait analysées, la proportion de malades qui avaient une CMU, donc ça c'est un critère de précarité, et on a remarqué que cette augmentation après la Covid-19 dans les groupes de scorbut, c'était beaucoup plus important que dans les autres.
La précarité alimentaire liée à l'inflation pendant et après le Covid-19 a également favorisé l'augmentation des cas de scorbut. Lutter contre cette hausse équivaut à assurer aux enfants une alimentation équilibrée.
Ça veut dire qu'il faut manger idéalement, donc commencer par vraiment des aliments frais et après faire plutôt une cuisson douce. Et donc, il est recommandé d'avoir 5 unités de fruits ou légumes par jour. Donc, ça peut être une orange, c'est une unité, une pomme, c'est une unité, mais une bol de soupe, c'est aussi une unité. Et si vous faites ça, il n'y a pas de risque, vous n'allez pas avoir le scorbut, c'est sûr.
Un peu plus de 800 enfants âgés de moins de 4 ans à 17 ans étaient concernés par l'étude, mais l'augmentation des cas de scorbut la plus importante est enregistrée dans la catégorie d'âge des 5 à 10 ans.
Explication d'Aram Beng. Au Royaume-Uni, de plus en plus d'universités tournent le dos aux entreprises pétrolières. Beaucoup d'entre elles sont désormais exclues des salons de recrutement, signe d'une perte de légitimité de ces entreprises auprès des étudiants, selon les auteurs d'une enquête sur le sujet. Ils précisent qu'en 2024, les universités britanniques sont 30% plus nombreuses qu'il y a un an à fermer leurs portes aux pétroliers et aux gaziers. Les précisions de Simon Rosé.
ExxonMobil, BP, Shell, des mastodontes du secteur pétro-gazier qui n'ont plus la cote auprès des étudiants britanniques. Autrefois considérés comme bons débouchés au sortir de l'université, ces dernières les boudent désormais de plus en plus. Elles sont 30% en plus que l'an dernier à fermer leurs portes de leur salon de recrutement au géant du fossile. Un mouvement particulièrement soutenu par les étudiants, notent les auteurs de l'étude. Un demi-million d'entre eux ont rejoint le mouvement Fossil Free Careers, des carrières sans fossiles, qui pressent les établissements de ne plus soutenir des entreprises qui contribuent au réchauffement climatique. Le phénomène se traduit également de manière plus large. Les 149 universités britanniques, dans leur quasi-totalité cette fois, ont également pris des engagements pour cesser d'investir dans des entreprises du secteur. Si toutes n'ont pas encore concrétisé cette intention, ces initiatives prennent de l'ampleur et les chiffres sont en progression constante d'année en année.
La précision de Simon Rosé. Et puis Paul Watson de retour en France. Après 5 mois de détention au Groenland, le défenseur des baleines a retrouvé ses proches à Paris, où un rassemblement est prévu pour l'accueillir.
RFI, toute l'actualité.
Clotilde Dumay.
À 4h12 en temps universel, le programme de ce qui vous attend pour les 20 prochaines minutes. Dans un instant, on fera le tour des médias publics francophones pour revenir sur une semaine d'actualité dans le monde. Mayotte, après le passage du cyclone Chido, le gouvernement canadien en pleine crise ou encore la Suisse qui veut soutenir les aciéries. C'est à suivre dans l'accent des autres. Et puis on parlera des villes qui offrent la meilleure qualité de vie pour les expatriés. Une étude vient d'être publiée à ce sujet et la ville qui remporte le classement est justement Suisse. Je vous en dis pas plus pour le moment. Mais d'abord donc l'actualité du monde vue par les médias francophones publics, c'est l'accent des autres avec notre confrère de la RTBF, Olivier Nederland.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Voici l'actualité de la semaine avec les médias francophones publics et pour ce dernier numéro de l'année, on va d'abord se pencher sur la solidarité des Comores, notamment l'archipel des Comores envers Mayotte, situé à 250 km. Solidarité, bien sûr, après le passage du cyclone Chido le week-end dernier, Nemo en Peace.
Il est encore beaucoup trop tôt pour dresser un bilan définitif de la catastrophe. En revanche, la mobilisation n'a pas tardé, notamment à quelques centaines de kilomètres de là, sur l'archipel des Comores, où de très nombreux habitants ont des proches à Mayotte.
Mayotte où s'est rendu le président français cette semaine, mais pas le nouveau Premier ministre. François Bayrou était en début de semaine au conseil municipal de Pau et ça n'a pas plu à tout le monde, vous l'entendrez. Au Canada, c'est une tempête politique qui a déferlé sur le gouvernement cette semaine, et cela, Karine Matteux, suite à une démission.
Oui, la semaine a été très mouvementée. La démission inattendue de la vice-première ministre et ministre des Finances a déclenché une crise au sein du gouvernement.
En parlant de gouvernement, la Belgique s'apprête à passer en 2025 sans gouvernement fédéral et ce n'est pas le seul exécutif qui tarde à se mettre en place. La région bruxelloise est aussi à la recherche d'une majorité, Jacques Crémers.
Oui, alors que les élections ont eu lieu au mois de juin dernier, au niveau fédéral, ils sont 5 partis à la recherche d'un accord de gouvernement et de 28 milliards d'économies.
Enfin, la Suisse risque à mener une politique industrielle. Elle est prête à soutenir un secteur particulier de son économie pour sauver la production et les emplois, Pierre-Anne Chauffat.
Si elle s'engage à ne pas fermer leur usine en Suisse, les aciéries payeront moins de taxes sur l'électricité ces 4 prochaines années. Une entorse au libéralisme qui a divisé le parti libéral.
Et voilà donc pour le sommaire de l'accent des autres. L'heure est toujours à l'urgence à Mayotte après le passage du cyclone Chido, peut-être l'une des pires catastrophes naturelles sur le territoire français depuis le début du XXe siècle. Et Nemo, Mayotte n'est pas la seule à avoir été touchée.
Le Malawi, le Mozambique et les Comores également, mais dans une moindre mesure. Les Comores, où de nombreux habitants ont vécu la semaine dans l'inquiétude, bien souvent sans nouvelles de leurs proches à Mayotte. La faute à la coupure de la plupart des télécommunications et du manque d'électricité. Certains ont tout de même pu brièvement entrer en contact. C'était le cas dans la capitale Moroni de Nasila. Il a expliqué à notre correspondant Abdelazem Baba que son oncle a dû se déplacer pour donner de ses nouvelles et du reste de la famille.
Ils se sont déplacés, leur maison et détruite, et donc il n'y a pas de conditions de vie, mais quand même on a appris qu'ils sont en vie. Maintenant on sait qu'ils sont pris en charge par des voisins et ils attendent les appuis et les soutiens des autres.
Et des exemples comme celui de Nasila, il y en a des milliers. Les Comores qui ont décrété un deuil national sur place, des collectes de fonds, de vêtements ont également été mises en place. Moroni qui célèbre ce dimanche les 50 ans du référendum sur l'indépendance vis-à-vis de la France, alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu à Mayotte. Moroni, où les propos du ministre français de l'Intérieur démissionnaire ont vivement fait réagir. Bruno Retailleau a en effet plaidé pour des mesures plus strictes contre l'immigration. Je vous propose d'écouter la réaction d'Amada Madi.
Comment peut-on être français, républicain de la République française et tenir de tels propos en une période de deuil? On ne cherche pas à diviser encore les meurtris et les morts, c'est-à-dire à penser à des morts qui seraient de telle nationalité ou de telle couleur, ça ne se fait pas.
Amada Madi, conseiller diplomatique du président comorien Azali Assoumani, vous l'aurez compris, sur place, l'émotion est toujours vive. La solidarité se poursuit, tout comme au sein des diasporas comoriennes, très présentes à Marseille et à Madagascar.
Et le président français Macron s'est rendu cette semaine à Mayotte. Le nouveau Premier ministre, lui, est resté en métropole. La première semaine à Matignon de François Bayrou aura en fait été surtout marquée par de nombreuses critiques sur sa présence au conseil municipal de Pau, et cela précisément en pleine crise à Mayotte. François Bayrou, qui dit qu'il va rester maire de Pau, il s'est donc rendu en début de semaine au conseil municipal qui devait voter le budget. Yannick Damon y était pour France Bleu Béarn Bigorre.
À son arrivée, quelques huées parmi les 80 personnes qui attendaient devant l'hôtel de ville. Le maire de Pau, applaudi en revanche par sa majorité en salle du conseil, François Bayrou a immédiatement donné une nouvelle dimension à sa traditionnelle chronique, moins paloise que d'habitude.
Mes chers collègues, merci beaucoup de votre accueil. Mais si vous voulez bien que nous commencions par les choses importantes, j'étais en réunion avec le président de la République dans la cellule de crise sur la situation à Mayotte. Les dégâts sont incommensurables.
François Bayrou, Premier ministre, a ensuite confirmé qu'il souhaitait rester le maire de Pau.
Je veux continuer à porter les espoirs de cette ville et de cette région, de nos concitoyens. Je veux qu'ils sachent que quand on accède à des responsabilités, on ne s'en va pas.
Une vision que ne partage pas du tout l'opposition.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place, Monsieur Bayrou. C'est une faute politique. Votre première mission, Monsieur Bayrou et Monsieur le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte.
Les critiques de l'opposition à Pau, donc, reportage de Yannick Damon pour France Bleu, Béarn Bigorre. La démission de la ministre des Finances au Canada, à présent, Chrystia Freeland, a claqué la porte du Conseil des ministres et Karine, elle a fait trembler le gouvernement.
Lundi, Chrystia Freeland, à quelques heures de la présentation de son énoncé économique, a annoncé sa démission, un départ fracassant qui a pris tout le monde par surprise, à commencer par le premier ministre. Dans une lettre, elle a fait état de différends qu'elle a eus avec Justin Trudeau, Mme Freeland, qui déplore entre autres sa gestion des finances publiques, mais on a aussi appris que le premier ministre lui retirait le portefeuille des finances avec l'intention de le refiler à un non-élu, Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. Bref, ça n'a pas passé et finalement, ce dernier n'a pas voulu du poste.
Alors, Karine, ces bouleversements ont créé de la division au sein du parti au pouvoir.
Oui, il y avait déjà de la grogne. Des députés, le mois dernier, avaient demandé le départ de leur chef sans succès et bien d'autres ont ajouté leur voix.
Je ne vois plus de pistes et je souhaite que M. Trudeau réfléchisse à son avenir.
Je crois que oui, qu'il doit quitter en ce moment, qu'il faut qu'il y ait un changement de leadership au niveau du Parti libéral du Canada.
C'est important qu'on ait un processus pour choisir un nouveau chef.
L'avis de plusieurs députés libéraux, donc, on peut dire que c'est un vrai cadeau pour les partis d'opposition.
Ils ont demandé le départ du premier ministre et le déclenchement d'élections. Voici le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, et le chef du nouveau Parti démocratique, Jack Meeting.
Parce que nous avons un premier ministre et un gouvernement ridicule
est faible. Un gouvernement qui a perdu le contrôle.
Qui s'occupe des chicanes internes au lieu des enjeux qui frappent fort dans la vie des gens. À cause de ça, aujourd'hui, je demande la démission de Justin Trudeau.
Alors, les travaux de la Chambre des communes ont été ajournés. Ils doivent reprendre à la fin janvier. Ça laisse donc un peu de temps au premier ministre pour décider de son avenir.
Et à propos d'avenir, on cherche toujours celui du gouvernement fédéral belge. Les élections se sont tenues il y a plus de 6 mois déjà. C'était au mois de juin. Mais depuis, ça discute. Pourtant, un assainissement des finances publiques s'impose. C'est en tout cas, Jacques, l'avis de la Banque nationale de Belgique.
C'est cette semaine que la Banque nationale a rendu son bulletin, ses projections semestrielles. Le gouverneur n'est pas fondamentalement pessimiste pour notre économie. Il s'attend à une croissance modérée pendant les 3 prochaines années, entre 1,2 et 1,4%, et la création de 90 000 emplois. Mais, car il y a un mais, le déficit budgétaire, lui, se creuse. Un assainissement des finances publiques est nécessaire. C'est le message de Pierre Wunsch aux négociateurs.
On a en Belgique des niveaux de dépenses publics qui sont parmi les plus élevés en Europe et même au monde. On a un déficit très élevé, donc probablement qu'une partie importante de l'effort doit porter sur une maîtrise des dépenses. Ça ne veut même pas dire que les dépenses publiques doivent diminuer en termes absolus, mais qu'elles doivent augmenter moins vite que la croissance économique. Comme elles ont tendance à augmenter dans le domaine lié au vieillissement, mais ça veut dire qu'il faut probablement faire des efforts ailleurs, dans d'autres domaines. Et alors, il faudra probablement un petit peu augmenter les impôts ici et là.
La recommandation de la Banque nationale est ainsi clairement exprimée. Si rien n'est fait, le déficit budgétaire du Royaume pourrait dépasser les 6% du produit intérieur brut, classant la Belgique comme le pire élève en Europe.
Oui, et ce chantier devra donc être mené par le futur gouvernement fédéral. Et précisément ce vendredi, Jacques, le formateur Bardo Wever a de nouveau fait rapport au roi.
Oui, c'était la 14e rencontre entre les deux hommes, 14 comme les 14 stations d'un chemin de croix, avant peut-être un gouvernement début janvier. Il faut notamment trouver 28 milliards d'euros. Bardo Wever a été prolongé dans sa mission de formateur. Un gouvernement associant les 5 partis dits de l'Arizona, à savoir les nationalistes flamands de la NVA, les chrétiens démocrates et les socialistes flamands, les libéraux francophones et les engagés. Cette coalition reste le scénario privilégié, tant les autres combinaisons paraissent encore plus complexes à réaliser.
Et on ajoutera qu'il n'y a toujours pas d'accord de gouvernement non plus au niveau de la région bruxelloise. On va se quitter avec cette brèche dans le libéralisme suisse. Les choses évoluent vers une politique industrielle du côté de l'État. Pierre-Han, le Parlement a voté cette semaine à Berne un soutien de l'État aux aciéries du pays.
Et on peut en effet parler de début de politique industrielle, ce à quoi la Suisse s'était toujours opposée jusqu'ici. Le Parlement avait d'ailleurs refusé le printemps dernier de sauver Vetropack, fini la production de bouteilles en verre en Suisse. Mais cette fois, il est prêt à soutenir les producteurs d'acier en les exonérant de taxes sur l'acheminement de l'électricité durant 4 ans.
Alors, qu'est-ce qui explique ce retournement ?
Eh bien, d'abord, la volonté de sauver des emplois dans un secteur important pour l'économie qui a besoin d'acier et d'aluminium. Mieux vaut donc éviter une trop forte dépendance de l'Asie. Ce qui n'a de loin pas convaincu tout le monde. Farouchement opposé à ce soutien, le président du Parti libéral Thierry Burkhardt craint un précédent.
Ce qui se joue ici concerne bien plus que les aciéries. Un subventionnement étatique pour des entreprises privées est tout à fait arbitraire et contraire à nos conditions cadres libérales. Le modèle suisse de réussite a toujours été que les entreprises doivent assumer elles-mêmes leurs risques entrepreneuriaux.
Mais au sein de son propre parti, certains n'ont pas hésité à briser le dogme, comme le conseiller national Olivier Feller.
Oui, une réduction de taxes provisoires. Donc ça, c'est une méthode libérale. C'est la méthode qu'a appliquée pendant des années la Suisse pour promouvoir la place économique. Donc soutenir un tel mécanisme, qui peut d'ailleurs être déclenché par le Conseil fédéral qu'à certaines conditions, notamment des garanties en matière de maintien de sites de production dans notre pays, eh bien ce dispositif-là me paraît tout à fait compatible avec un libéralisme pragmatique.
Reste à voir ce qu'il adviendra des aciéries menacées. Ce soutien indirect suffira-t-il ? L'une d'elles a en tout cas suspendu un plan de licenciement en marge de ses débats parlementaires.
Pierre-Han Chauffat et la Radio-Télévision Suisse pour refermer votre rendez-vous hebdomadaire avec les médias francophones publics. Merci d'avoir été au rendez-vous. L'accent des autres fait une petite pause et revient dans 3 semaines. Excellente fin d'année et à très bientôt, donc en compagnie de Radio-Canada, de France Bleu, de la Radio-Télévision Suisse, de RFI et de la RTBF.
Et merci à vous, Olivier Nederland. On vous retrouve donc en 2025 pour l'accent des autres.
Vivre ailleurs.
Les résultats de l'enquête du cabinet Mercer sur les villes qui offrent la meilleure qualité de vie pour les expatriés viennent d'être publiés pour cette édition 2024. L'Europe apparaît comme le continent le plus attrayant pour les expatriés puisque 8 des villes du top 10 sont situées en Europe occidentale, dont 4 rien qu'en Suisse. Zurich prend la tête du classement et détrône Vienne. Les explications de Gordon Zofko, le responsable de la mobilité internationale chez Mercer, interrogé par Corinne Manjou pour la chronique Vivre ailleurs.
Tout d'abord, cette enquête-là, elle n'est pas marquée par de grands bouleversements dans le classement général. Vienne qui passe en seconde place et Zurich qui se hisse à la première. Il faut peut-être préciser qu'on parle vraiment de différences extrêmement faibles entre l'une et l'autre des villes, tout comme des villes qui vont composer le top 10, voire le top 15. Donc, c'est vraiment de petits détails qui vont décider d'une place par rapport à une autre en fonction de l'année précédente. On a 80% dans le top 10 de villes européennes, donc c'est à noter, et les deux non-européennes se situent au Canada et en Océanie, avec Vancouver et Auckland.
Qu'est-ce qui a joué en faveur de Zurich par rapport à Vienne, même si c'est léger ?
Très honnêtement, ce sont des nuances sur nos catégories. Elles sont au nombre de 10, hein, sur l'environnement économique, socio-culturel notamment, la congestion du trafic. Donc c'est vraiment de petits points qui font qu'on passe en première et en seconde place. Vraiment, le top 10 est composé de villes où le niveau de vie est extrêmement élevé par rapport à nos critères de mesure. On y retrouve à nouveau 4 villes suisses, Zurich, Genève, Berne et Bâle. Et c'est surtout un peu cette stabilité, l'efficience des services publics, l'environnement socio-économique et socio-culturel.
Et la situation en Amérique ?
Alors, en Amérique du Nord, déjà, la première ville des États-Unis va être Boston, classée en 32e place. Et on a une progression de Los Angeles de 26 places, qui est la plus haute progression dans le classement. Et on a ensuite Atlanta et Dallas, donc trois villes également des États-Unis d'Amérique, qui ont fait d'importantes progressions. On parlait tout à l'heure des raisons. Elles sont au nombre de 3 et partagées pour l'ensemble des villes américaines que je viens de citer, à savoir une pollution et une congestion du trafic qui a diminué et une criminalité qui a baissé également. Donc c'est ça qui explique la hausse de la qualité de vie, en tout cas du classement de Los Angeles, Atlanta et Dallas. On parlera aussi de New York, qui est intéressant toujours parce que c'est le point de départ de notre classement, qui est classé à la 45e place et qui perd 5 places, notamment pour des raisons de criminalité qui ont légèrement augmenté.
Et en Asie ?
Pour l'Asie, c'est toujours Singapour qui est la première place, c'est-à-dire la 30e. On a noté pour le Japon notamment des baisses sur 4 villes, Tokyo, Osaka, Nagoya et Yokohama, qui sont là aussi liées à une dégradation du trafic routier.
Dubaï et Abu Dhabi restent les deux villes retenues au prochain Moyen-Orient.
Absolument, alors qu'on pourrait rajouter aussi Doha au Qatar, Riyad et Jeddah en Arabie Saoudite, notamment sur la potabilité de l'eau et traitement des eaux usées se sont améliorés.
Port Louis, à l'île Maurice, est la première ville en Afrique.
Alors oui, vous avez raison, c'est la première au classement des villes africaines. On en a d'autres, évidemment. On a aussi Victoria aux Seychelles, qui est deuxième par rapport à la liste des villes africaines, mais elles sont hors Afrique continentale, si je peux dire ça comme ça. La première va être le Cap, en Afrique du Sud, à la 106e place, suivie de Durban et Johannesburg.
Quelle est la situation plus spécifique de la France ?
Pour la France, nos trois villes de mesure, Toulouse, Paris et Lyon, se situent respectivement... Toulouse 32e, Paris 34e et Lyon 36e, stable parce qu'on a des variations de plus 2, moins 2, avec moins 2 pour Paris. Paris reste extrêmement attractive et en comparaison avec des mégalopoles comme Los Angeles ou Londres, elle est devant. Et Toulouse et Lyon restent des villes qui offrent un cadre de vie qualitatif, sans faire de comparaison évidemment, mais Singapour, qui est souvent l'exemple un peu qu'on a le premier en tête en qualité de vie expatrié, est à la 30e place. Nos villes françaises sont directement derrière et bien placées.
Voilà, Gordon Zofko, le responsable de la mobilité internationale chez Mercer. Il était interrogé par Corinne Manjou. Restez avec nous sur RFI dans 30 secondes, l'actualité africaine.
RFI à Paris, 89 FM. Kinshasa, 105 FM.
Ce dimanche, sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic. Ce que la philosophie doit aux femmes, c'est le titre d'un ouvrage collectif qui est cette fois au cœur du magazine, avec notamment la philosophe Laurence de Villers.
D'une certaine façon, on a voulu montrer que les femmes étaient des philosophes comme les autres, et que c'était à ce titre, parce qu'elles étaient des philosophes, qu'il fallait que la philosophie paie ses dettes, et qu'elle les intègre dans l'histoire de la philosophie.
Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.